super le fun. Se joint à nous quelqu'un qui aime découvrir bien des places, souvent en char. Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur auto. Salut Sam.
Bonjour.
C'est le genre d'affaires qui te parle.
Ben
je
oui.
te voyage chez de la tête, puis prendre des notes, puis profiter de la ville.
Ben on a parlé aussi de la route Stoneham, Saint-Gabriel. C'est vrai que c'est magnifique. Faire attention toutefois aux amateurs de véhicules sportifs, hein, c'est 70 la limite.
Oui, c'est vrai qu'il y en a qui décident de rincer un peu leur char là-bas, puis peuvent avoir des surprises.
Je suis le premier à trouver que c'est un beau coin pour conduire une voiture. Là, les belles courbes, c'est sinueux.
Tu veux faire comme une publicité d'auto.
Ouais.
Et les publicités d'auto sont enregistrées à circuit fermé.
Oui,
hein?
C'est que c'est juste des... Puis des fois, c'est juste tenter le diable. Hein? Tu prends ces routes-là, puis tu as juste envie de pousser ta machine, mais ça reste 70. Puis j'ai un ami qui habite d'ailleurs sur cette route-là.
Ça y a coûté cher à date?
Il me dit à quel point c'est une piste de course. Les gens arrivent en moto le soir, ça roule vite. Mais c'est vrai que c'est bucolique. Très, très beau.
Hey, tu vois, on vient d'ailleurs recevoir tout ce qui était les grands excès de vitesse avec les affluences. Samedi, c'était la dernière des grands feux. Puis il y a un gars qui s'est fait pogner vers 21h30 dans le secteur du viaduc Henri Bourassa sur Dufresne-Montmorency à 164 km/h. La limite est de 100. Ça lui a coûté 1 300 $.
Ouais,
14 points d'inaptitude.
Plusieurs points, c'est ça que j'allais dire, oui.
Permis de conduire suspendu pour 7 jours.
Ils ont dû remarquer le char aussi.
Ça, oui, probablement. Fait que ça a dû être le fun. Il ne s'est pas rendu au feu d'artifice.
Ça, c'est plate.
Pas de ça qu'on voulait parler avec toi aujourd'hui. On va parler de type d'essence. Ah, oh, Sam, t'as manqué quelque chose de tellement drôle dans le bureau tantôt. Pis...
Oh, tu fais pas ça, Véro.
Mais là, Max...
Je ne ferais jamais ça.
Parce que tu vas nous parler d'essence qui contient 15% d'éthanol qui est à nos portes. Puis, j'ai comme, hey, crime, ça va être un bon moment de parler, mettons, quand tu as l'essence, l'ordinaire, la super, tout le kit. Et Audrey a dit, mettons, le diesel dans mon auto, je peux-tu en mettre?
Oui, mais là, c'était pour informer les auditeurs. Je sais que je ne peux pas mettre du diesel dans mon genre.
Oui,
mais...
assis à la table tantôt.
Non,
Véro et moi.
Non, mais c'est bien qu'on en parle.
Tu me connais bien, là.
J'ai tellement regretté d'avoir dit que le nozzle pouvait pas fitter.
Oui,
ou
oui, mais ça peut être traître, hein, parce que moi, tu peux faire l'inverse. Oui. J'ai déjà vu des gens mettre de l'essence régulier dans du diesel.
J'ai une amie qui l'a fait, elle avait la tête ailleurs, là. Puis, tu sais, était pour une raison personnelle, puis elle s'est trompée, puis le char a roulé.
Oui, pas longtemps.
Puis après ça, il a fallu qu'il vidange absolument tout, puis ça a coûté cher.
Oui, ça coûte très cher faire cette erreur-là. Mais oui, ben, je vous parle d'éthanol. Okay? On va commencer avec ça, parce que c'est quand même ça la grosse nouvelle. L'éthanol, vous savez c'est quoi de l'éthanol? C'est un peu le...
On peut non, course en 1.
Course en 1, bon, allons-y, c'est un alcool de grain qu'on peut retrouver dans des alcools qu'on boit, là, dans des breuvages qu'on peut boire. C'est un alcool qui peut se faire soit de manière bio, là, donc de la biomasse. On peut utiliser ça de manière plus fermier, par fermentation, ou on peut le faire aussi par synthèse, donc de manière chimique. Et l'éthanol, c'est un produit qu'on essaie d'intégrer de plus en plus dans l'essence pour diminuer les effets de gaz à effet de serre. Les effets de gaz à effet de serre, deux fois effet là-dedans, mais les gaz à effet de serre. Donc, l'idée, c'est que l'éthanol, ça brûle pas le même genre de gaz que ce qu'un essence régulier va faire.
Okay.
Donc, c'est plus écologique. Vous voyez ça de même un peu, ça aide à diminuer les effets de serre. Et l'éthanol est réputé dans l'automobile, on le voit aussi dans le méthanol qu'on va voir dans les courses automobiles. Il y a beaucoup de voitures de performance qui vont utiliser du méthanol, un genre de mix qu'ils vont utiliser pour faire avancer les moteurs. Et les moteurs sont capables de boire l'éthanol pour fonctionner. Plusieurs enjeux avec ça, c'est que si, exemple, vous avez un véhicule assez âgé, c'est vrai que l'éthanol peut briser les véhicules âgés.
Parce qu'ils ne sont pas conçus pour ça?
C'est une question d'absorption d'eau. L'éthanol peut boire l'eau, donc on l'utilise des fois aussi pour nettoyer des carburateurs. On veut l'utiliser pour nettoyer des systèmes d'injection parce que, si, exemple, il y a de l'humidité qui est prise dans les conduits du moteur, on peut utiliser de l'éthanol pour justement enlever l'humidité qui est là. Mais le désavantage, c'est qu'il garde l'humidité avec lui, donc boit l'eau. Et quand on a des véhicules qui sont plus âgés, on a souvent des composantes qui sont à risque de corrosion, donc qui pourraient corroder plus rapidement et donc créer des problèmes sur le réservoir d'essence, sur les lignes d'injection, ces choses-là.
Puis ça, le choix d'augmenter le pourcentage d'éthanol dans l'essence, est-ce que c'est carrément les essenceries qui font ce choix-là ou c'est le gouvernement qui impose ça?
Et c'est là la nouvelle. C'est que l'éthanol a toujours été dans l'essence que vous mettez. Là, vous avez peut-être...
Il y a des petites pancartes
quand
tu
vois son char. C'est 10. Là. C'est 10 % d'éthanol qu'on a dans l'essence qu'on roule depuis maintenant très, très longtemps. Les véhicules qui sont âgés après 2001, n'ont aucun problème à consommer de l'éthanol. Donc là, déjà là, en partant, on vient de régler beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de risque.
Les plus vieux véhicules, il y en a de moins en moins dans notre
parc automobile. Il y en a de moins en moins. Et généralement, les gens qui conduisent des bolides plus âgés que 2001 savent ça. Ils sont au courant de ce genre d'éléments-là à considérer. Le problème, c'est que...
Tu considères un véhicule d'époque maintenant, avant 2001?
Oui, quand même. C'est 25 ans. On est proche là.
Je suis quasiment un véhicule d'époque.
Ça nous vieillit, hein, c'est incroyable. Des fois,
une belle auto d'hier, Max Larouche.
Donc, l'éthanol va être augmenté dans l'essence. C'est un projet de loi qui avait été déposé en 2019 par le gouvernement du Québec. Et le gouvernement avait demandé effectivement aux raffineries, aux essenciers, d'augmenter le niveau d'éthanol dans l'essence. Et aussi dans le diesel. On était à 3 % dans le diesel. On veut maintenant tomber à 10
%. Bonne augmentation.
Exactement. Et dans l'essence, on veut faire de 10 à 15 %. Le 15 % vient irriter quelques propriétaires de véhicules âgés, justement, parce que là, on va vraiment pouvoir créer des futurs problèmes dans ces véhicules-là.
Mettons, là, pour, entre 2010 puis 2015,
la vie est bonne.
Là, la vie est bien, okay,
la vie est bonne.
Tu demandes pour une amie?
Juste pour, ouais, pour une grande chambre.
Oui, oui,
donc, le char coûte vraiment cher. Là.
Oui, exact.
Mais pas de diesel dans ton...
C'est ça.
Je vais y passer.
Concentre-toi là-dessus, ouais, ça va bien aller.
Quand c'est vert, c'est pas pour toi.
Parfait.
Ah, des fois, c'est jaune aussi.
Ah, oui, c'est ça, faut pas se tromper.
Mais il faut juste lire. Diesel, non. C'est ça.
Donc, oh, l'éthanol.
Oui, oui, c'est juste pour être sûr. Sur ta main, vous faites tous les tatoués. Diesel, non. Mais c'est ça. Donc, l'éthanol va être augmenté dans l'essence qu'on va avoir dans nos véhicules prochainement. Et là, on voit passer beaucoup de choses un peu partout. J'ai vu des gens partir en panique en se disant « Ça y est, mon auto va être brisée. J'aurai des problèmes avec ça. » Il n'y aura pas de problème pour vos voitures. Et sachez qu'on devait, dès 2025, avoir vraiment massivement intégré l'éthanol 15 % dans les gaz qu'on a aux stations-service. Et ça se fait graduellement. Et là, il y en a de plus en plus. J'en ai vu moi-même dans les stations-service 15 % d'éthanol. Donc, on voit qu'il y a maintenant des raffineries qui commencent à avoir le mélange un petit peu plus élevé. J'en parle simplement pour vous dire de ne pas s'inquiéter. Il n'y a pas de panique à avoir. C'est un projet de loi qui est déposé depuis longtemps. Mm-hmm. Et on devrait probablement même voir augmenter ce niveau-là dans les prochaines années. Donc là, pour l'instant, c'est du E15 qu'on appelle, donc éthanol 15, qu'on va avoir dans l'essence régulier aussi. Et on va le voir un peu dans tous les types de grades d'essence, que ce soit du 87, du 89 ou du 80.
Ça ne change rien, sa performance, dans
le fond? Ce n'est pas changé. C'est censé absolument rien changer sur votre véhicule. Si votre voiture est plus âgée que 2001, là, les véhicules d'aujourd'hui sont capables sans problème de consommer ce genre de liquide-là. Donc, vous ne devriez pas avoir de problème, mais sachez-le, maintenant, l'éthanol 15 fait son entrée. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de panique à avoir.
Ça coûte-tu plus cher?
C'est pas censé coûter plus cher, même que c'est peut-être censé nous coûter moins cher.
Ça n'arrivera pas, ça.
Ça n'arrivera pas,
hein?
Exactement. Mais c'est peut-être censé nous coûter moins cher.
Pourquoi?
Même l'éthanol. Ben, c'est la production qui est beaucoup moins compliquée que d'aller chercher du gaz de dinosaure dans le fond d'un désert quelque part. Fait que souvent, c'est pas mal ça. Là. C'est pas difficile à produire. Et on peut utiliser beaucoup de biomasse pour faire de l'éthanol. Des rebuts agricoles, des choses comme ça qu'on peut utiliser pour créer de l'éthanol. Donc là, ça devient encore plus facile et moins coûteux à faire. D'autant plus que les performances des véhicules d'aujourd'hui ne seront pas impactées. Donc, moi, je vois ça comme une nouvelle positive. Il y a des gens qui voient ça comme une nouvelle épeurante. Moi, je suis là pour vous dire qu'il n'y a pas de danger.
Moi, je ne suis pas du type à taponner beaucoup dans ma voiture. T'sais, je vais y aller avec ce que le constructeur, ouais, a mis de base. Mmh. Fut un temps où j'ai déjà installé le petit fil pour être capable d'avoir un auxiliaire dans ma vieille Mazda protégée parce que je voulais utiliser mon lecteur MP3.
C'était techno. Hein?
Je ne l'ai pas fait ça, je l'ai fait avec un de mes amis. Là, dans les dernières semaines, moi, mon Apple CarPlay, il,
oui,
faut que je branche dans mon auto.
Avec un fil,
ça,
oui,
m'énerve. Mmh. Là, je me suis acheté le gadget Bluetooth. Pour
Est-ce que ça fonctionne bien?
Fantastiquement, bon, bien. Tu le rentres dans ton petit port USB, là, tu rentres ton petit code et là, je pense qu'il y a buggé une fois-ish, mais pour le reste du temps, ça permet de ne pas avoir besoin de brancher le téléphone nécessairement. Tu le laisses dans ton sac puis tu as accès à ton Google Maps, ouais, tes contacts, tout le kit. Mais d'installer moi-même un autopilote dans mon char, non.
Non, c'est un autre niveau. Hein?
Non, puis je trosse pas grand monde,
ben,
avec ça.
Moi non plus, on dirait.
Non, c'est une nouvelle affaire qui prend de plus en plus de place. J'en ai déjà glissé un mot, mais là, je vois qu'il y a vraiment une popularité qui augmente massivement. Ça s'appelle COMMA. Okay? COMMA, c'est C-O-M-M-A.
Okay.
C'est un programme qui a été développé par un ancien pirate informatique américain. Donc lui, c'était vraiment comme une sommité là, dans le domaine de l'informatique. Et lui, il a développé une technologie où est-ce que tu peux vraiment rendre ton véhicule semi-autonome en conduite. Mais là, la beauté, c'est que t'es pas obligé d'avoir un véhicule récent. Tu peux, par exemple, avoir un Corolla 2014 et installer ce système-là à bord. Le système va prendre la place, littéralement, d'un régulateur de vitesse adaptatif. Peut garder le véhicule cintré dans la voie également. Est capable de faire un freinage d'urgence aussi.
Ce qu'on retrouve dans les nouveaux véhicules.
Oui, les genres de choses qu'on
l'assistance
va voir. Exactement.
Tu es en train de dire que moi, avec mon char 2013... je pourrais installer ça.
Oui, absolument.
C'est une bonne idée qu'Audrey installe ça.
Je sais pas à quel point.
C'est la question qu'on peut se poser. faut savoir aussi que Coma.ai, là, c'est une intelligence artificielle qui a été développée par une communauté de gens. Et pour l'instant, toutes les données qui sont récoltées par l'intelligence artificielle viennent de la communauté.
Okay, donc c'est open source encore.
Exactement. Donc, c'est tous des gens qui vont dire, OK, mais moi, j'ai utilisé le système, on a fait ci, on a fait ci, c'est passé ça. Présentement, il y a 325 modèles de véhicules qui sont accessibles pour l'installation de ça. Ce qui paraît, ça prend à peu près une dizaine de minutes à installer dans son véhicule. On installe un boîtier ordinateur et une caméra supplémentaire sur le véhicule qui va vraiment faire office de yeux. Oh, ça va être les yeux du véhicule maintenant. Et il y a plus de 160 millions de kilomètres qui ont été parcourus en Amérique du Nord avec le système embarqué par des utilisateurs.
Quand tu modifies ton auto comme ça, est-ce que ça peut te causer des problèmes avec l'assurance si parfois tu as un accident?
Bien, c'est toi ces questions-là qui vont rester à répondre. C'est des excellentes questions parce que je n'ai pas la réponse. Mais clairement, si on dit à mon assureur, oui, bonjour, j'ai eu un accident avec mon véhicule, j'ai installé une patente là, pour conduite autonome.
C'était censé freiner, puis ça n'a
pas,
freiné.
Ben, j'imagine qu'ils ont des problèmes.
Oui, non, d'après moi, c'est ça, là. Ça
j'imagine
ça compliqué.
Que ça risque d'être plus compliqué. Pourquoi j'en parle, c'est que j'ai commencé vraiment à voir de plus en plus des gens poser des questions sur ce genre de système-là. Tu sais, des fois, on envie les voitures neuves, on les voit arriver avec leur nouvelle technologie, puis on se dit...
Leur caméra de recul!
Ils sont bien chanceux, eux autres, avec ça. Moi aussi, je le veux, tu sais. Et une caméra de recul, ça fait pas mal à personne, ça ne fonctionne pas, mais dans ce cas-ci, on est vraiment rendu dans un autre niveau. Et c'est des genres de choses qu'on pourrait commencer à avoir de plus en plus. C'est là, c'est un premier système qui est de plus en plus massivement utilisé, mais on pourrait clairement voir d'autres joueurs. Comme exemple, Google pourrait nous arriver peut-être même avec une solution comme ça un jour aussi, qu'on installe soi-même dans son véhicule. Il y a beaucoup de régulations à voir avec ça, mais on voit que la conduite autonome commence sérieusement à prendre la place dans les habitudes de consommateurs.
Ouais. Moi, c'est vraiment juste un appui. T'sais, je me fie pas à ça. J'aime bien le principe du régulateur de vitesse, là, de pas avoir besoin d'enlever le cruise control quand je vais conduire. Puis tu es capable maintenant de choisir la distance à laquelle tu vas te retrouver du véhicule qui est en avant-toi.
Moi, j'ai ça pour mourir. J'ai ça pour mourir. Moi, je m'en ai tellement du vieux régulateur de vitesse. Là. Des fois, les constructeurs ne me donnent pas le choix. Là. Les constructeurs, des fois, ils embarquent les régulateurs de vitesse intelligent et tu peux choisir si tu veux le régulier ou l'intelligent. Ça, j'aime ça. Parce que c'est vrai qu'une fois de temps en temps,
moi, je trouve ça pratique
de laisser
sur la grande
ça aller,
route,
bon, ça peut être le fun. Mais moi, quand je suis à 20 puis que le monde roule pas assez vite puis que le char ralentit tout le temps, là, il faut que je clignote pour qu'il réaccélère puis là, je ralentis encore.
Moi, je le vois venir. J'attends pas que ça ralentisse. Je le sais quand le char en avant de moi va me ralentir, Sam.
Je
vais mettre mon clignotant puis je ralentirai jamais dans ma vitesse.
Je comprends, mais moi, je suis un cowboy du régulateur de vitesse. J'adore laisser l'auto monter par elle-même jusqu'à Montréal. J'adore utiliser le régulateur de vitesse régulier. Et je me bats pour que les constructeurs les gardent dans les véhicules.
Tu sais, pareil comme ceux qui chialent que quand tu tasses ta ligne, ça bip. Mets ton auto de flasheur, puis déproche jamais ton char.
Mais
là.
Non, c'est épouvantable. Là.
Ouais. Non, c'est pas épouvantable. Ça se désactive si vraiment vous voulez pas.
Mais Véro, elle aime la technologie aussi.
Oui,
bien,
il en fait ça.
J'aime la technologie, puis j'ai décidé de bien m'entendre avec elle. Okay. Plutôt que de me battre contre la technologie, j'apprends à la connaître, puis j'apprends à l'utiliser à mon avantage. Parce que moi, quand je vois ceux qui chialent après leur char, mais oui, mais là, apprends à vivre avec, puis tu vas arrêter de chialer sur ton char.
Moi, j'ai jamais autant apprécié mon vieux char qu'en ce moment.
Ouais, hein?
Tu sais, c'est moi qui gère. Il n'y a pas de bibi, tasse-toi, prends une pause café.
Tout le monde est tellement rassuré, là.
Hey, je te dis pas que c'est bon pour les autres. Pour moi, c'est le lit, par exemple. Hey, Véro, il y a une couple de personnes qui veut savoir c'est quoi ta bidule.
Hey, t'as peur, je vais vous sortir
ta bidule
le
que
tu as
achetée. Il y a une couple de monde qui veut savoir ton truc.
Il y en a plein là, sur
c'est
Internet.
C'est des adapteurs CarPlay.
Oui, exactement.
Cherchez adapteurs CarPlay Bluetooth.
Ou Android Auto aussi existe aussi. Là.
Il vous indique ensuite de ça, en dessous, là, vraiment tous les téléphones qui vont être compatibles. C'est tellement, mais tellement simple. C'est vraiment un petit carré que vous allez insérer là-dedans. Vous allez avoir un code à rentrer avec votre téléphone. Puis moi, personnellement, là,
t'es vendu.
Je suis totalement vendu. Oui. Puis moi, pourtant, j'ai un véhicule de l'année, mais la technologie impliquait encore qu'il y ait un fil. Puis tu sais, pourtant, j'ai le chargeur par induction, là.
Oui, oui.
Fait que tu sais, je laisse le téléphone là-dessus, il se charge, j'ai pas besoin de fil. La vie est belle.
Ça va bien. Ouais. Rapidement, Henri Quatenard, voiture en panne dans votre gauche, juste un peu avant Amel, qu'on nous dit par texto.
Tu nous as souvent parlé que de moins en moins, les constructeurs allaient lancer des véhicules qui étaient... abordable. Et là, on se retrouve avec de l'électrique abordable du côté de Nissan.
Oui, on commence tranquillement à avoir des véhicules électriques qui vont avoir des prix intéressants. Là, Partez pas en peur, on n'est pas encore autour de 30 000 $. Moi, je souhaite ça. Moi, je travaille là-dessus, j'ai ce que je veux. On va gratter, on va essayer de se rendre jusqu'à là, mais on avance quand même un petit peu avec la nouvelle Nissan Leaf, véhicule électrique qu'on connaît maintenant depuis très longtemps au Canada, 2009, hein, l'introduction du véhicule. Et là, on est rendu à cette toute nouvelle génération, troisième génération, qui arrive complètement renouvelée. Et on arrive avec un prix de base, incluant les frais de transport et préparation, à 47 846 $. Vous allez me dire, bon, c'est pas encore 30 000, je suis d'accord avec vous, mais on parle quand même d'un véhicule électrique qui va offrir 417 km d'autonomie. Mmh. Et là, quand on regarde ce genre de spécifications-là, tu te dis, OK, il y a quelques années, on payait plus cher que ça pour un véhicule qui faisait 350 km à peu près d'autonomie. Donc, on voit que la technologie commence tranquillement à arriver à un point de, OK, tranquillement, je peux me dire, ce véhicule-là, je le compare à un équivalent à essence, puis peut-être que je vais réussir à arriver dans un calcul à quelque part qui va être avantageux pour moi. J'ai hâte de voir maintenant, parce que, tu sais, là, on parle de la gamme chez Nissan. Il y a d'autres constructeurs qui s'en viennent avec le couteau entre les dents. Je pense à Chevrolet avec la Bolt qui était disparue, qui devrait revenir l'année prochaine. On devrait en avoir des nouvelles d'ici la fin de l'année. Véhicule qui va aussi arriver dans l'entrée de gamme chez Chevrolet. Et moi, je m'attends à un prix autour de 40. Là.
On vise quoi avec ça? On vise que le, mettons, deuxième véhicule de foyer ou de la personne de ville, ce soit un véhicule électrique?
À vrai dire, on vise la popularité, point barre. On vise aussi, pourquoi pas, tu sais, à 417 km d'autonomie pour un véhicule électrique, tu vas au Saguenay l'hiver aussi. Dans le sens qu'il n'y a pas de souci. C'est un véhicule qui va être capable de faire une bonne distance. On a des meilleurs ports de recharge aussi maintenant, des capacités de recharge qui sont accélérées aussi. Donc, c'est intéressant de voir ça. Moi, je m'attendais à ce que Nissan soit un petit peu moins cher encore. Là. Je m'attendais à peut-être un prix autour de 45. On était à 47. Là. Fait que mes projections n'étaient pas si mal. Mais
là, t'as-tu encore un rabais?
Elle a brisé, on s'excuse.
On trouve plus la facture.
On est désolé.
Ils ont dit de la rebooter l'autre jour. On n'a pas trouvé encore aux rentrées l'espèce de petit trombone.
Et ça, c'est l'enjeu avec l'électrique. C'est très drôle.
Oui, le rabais provincial est toujours actif actuellement. On a entendu Mark Carney dire qu'on allait revenir avec un rabais fédéral. C'est pas encore le cas. Finalement, on parle plus de faire de l'investissement dans le réseau, dans la structure électrique.
On n'a pas le choix d'améliorer puis d'augmenter.
Exactement.
Là. C'est rendu quasiment un défi quand tu fais de la grande route de trouver une borne qui est disponible.
Oui, il y a du monde maintenant sur les réseaux de recharge, puis effectivement, là, ça va être aussi de voir comment on va réussir à gérer le civisme avec les bornes de recharge. Là, on voit beaucoup de choses complètement aberrantes des fois dans les bornes. Ben, j'ai vu hier une voiture électrique stationnée dans un stationnement pour recharger, mais qui n'était pas connectée. La personne a juste vu un parking VIP.
Elle s'est dit, moi, me stationner là, je suis électrique, moi, ça va pas dans l'air.
C'est ça. C'était un parking vert, là, fait que je me suis...
Moi, je me serais mis en parallèle là, pour charger mon char.
C'est comme si vous aviez laissé votre voiture au Petro-Canada. Tu sais, comme dans la station-service, parqué.
Pour aller chercher de quoi manger. Ou encore, c'est comme un monsieur avec une bedaine dans le stationnement famille. Parce que dis-moi si j'ai le droit à une bedaine.
Ben, c'est ça. Fait que là, c'est ça qui va rester à déterminer avec ça. Mais c'est intéressant de voir ça.
On va finir avec les véhicules électriques parce qu'à un moment donné, on se disait, ben, les constructeurs américains vont lâcher là-dessus. Ouais. Il y avait eu certaines annonces en lien avec tout ça. Mais reste que c'est le marché qui finit toujours par parler.
Toujours.
C'est le consommateur qui parle. Puis Ford va lancer quelque chose de nouveau dans le côté abordable aussi, de ce que je comprends.
Camionnette électrique autour de 30 000 $ US.
Oui, il faut faire attention.
On verra aussi quand le Ford sortira le produit, quel sera le prix. Mais Ford a quand même annoncé une grosse nouvelle. Il y a de ça une semaine, on a parlé vraiment de la restructuration de l'architecture électrique chez Ford. Donc, on veut développer une nouvelle plateforme pour bâtir plusieurs types de véhicules. On a changé également la chaîne de production. On utilise aussi des batteries qui vont être plus faciles à concevoir, des batteries LFP qui vont être faites directement aux États-Unis, qui coûteraient moins cher à faire aussi. Et ce qu'on a surtout vu, c'est que, tu sais, Ford, le président, même a parlé, le moment Model T, la Model T qui a mis sur la map l'idée de la construction à la chaîne dans les fabrications automobiles. C'est la voiture qui a popularisé Ford, qui a popularisé l'automobile, point, tu sais. Et on semble parler ici d'un tournant dans la compagnie quand même. Hâte de voir qu'est-ce qu'on va sortir de ça. Mais tu sais, quand je vous parlais que l'électrique, un jour, va arriver assez sérieux en termes de capacité et en termes de prix, pour concurrencer des équivalents à essence. Ben, on a un autre exemple de ce qui pourrait arriver chez Ford. On a Chevrolet également, comme je parlais un petit peu plus tôt, qui s'en vient avec des solutions également. Et dites-vous une chose, il y a eu tellement d'investissements de la part des constructeurs automobiles dans le développement.
On ne peut pas tout
abandonner ça. C'est impossible. On ne va pas abandonner l'électrique, c'est clair.
Deux questions par texto. Qu'est-ce qu'on fait avec les antirouilles sur les chars électriques? Ça change rien?
Ça change rien. Il y a des spécialistes d'antirouilles que vous connaissez. Peu importe la marque que vous allez choisir, appelez-les, demandez-leur, posez-leur les questions directement. Ils vont vous répondre qu'il n'y a pas de danger.
Génial. Pouvez-vous demander à Sam si dans un Infiniti QX80-2021. C'est le Cruise Standard parce que, comme Sam, la version intelligente me tanne.
C'est le régulateur de vitesse adaptatif qu'on va avoir là-dedans, mais chez Nissan, c'est possible de naviguer entre les deux. On a le petit bouton sur le volant qui va calculer justement la distance qu'on veut avoir avec le véhicule à l'avant. Et lorsqu'on enfonce ce bouton-là pendant quelques secondes, le régulateur de vitesse va changer entre le régulier et intelligent. Donc ça, c'est un avantage quand même du produit. C'est possible de naviguer entre les deux.
Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur auto, c'est toujours le fun de te recevoir.
Merci.
On peut te suivre sur les médias sociaux. On te voit même la binette à la télé. Votre saison a recommencé, RPM?
Non, c'est 14 septembre
14
officiellement.
Septembre.
Oui, je suis un peu nerveux. Là. Je commence à être nerveux.
Confiance en toi, ça va bien aller. C'est toujours un plaisir de te recevoir.
Merci beaucoup.
Fait que Sam trouve le moyen de nous intéresser à tellement de variantes dans le domaine de l'automobile. À chaque fois, je suis fascinée. Vous écoutez Gravel dans le retour. On va jeter un œil à la circulation, Audrey, parce que là, ça s'est compliqué. Puis, t'as-tu causé un accident sur le pont?
Bien, écoute, peut-être, on ne sait pas. Là. C'est ce que je me demande. Si vous êtes en ce moment. Peut-être commencer à rappeler le texto qui est entré. Là. Ceci dit, Henri IV-Nord, voiture en panne dans votre gauche, juste un peu avant Amel. C'est pas terminé. Je le vois aussi sur le 5-1, là, donc c'est encore d'actualité. Effectivement, que près des ponts, ça commence à se compliquer. Si vous êtes sur Henri IV-Sud, la congestion commence à partir d'Amel jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte en ce moment. Fait que c'est quand même assez complexe. Capitale, direction est, hauteur Robert Bourassa, toujours au ralenti. Ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Léger ralentissement sur Charest Est, hauteur Henri IV. Non, pas vrai, mensonge. Hauteur Robert Bourassa. Oh là là. Et pour ce qui est de la 20 direction ouest, c'est dans le coin de chemin des îles, évidemment. Quoi que ce soit d'autre, ça passe par le 88-971-102 texto.
Pas le choix de trouver la facture pour faire réparer Audrey. On va continuer à fouiller. Vous écoutez Gravel dans le retour. Véro, Audrey puis Max qui vous accompagnent jusqu'à 18h. On s'arrête quelques instants et on revient.